Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Comme Dino vous l'a dit, nous commençons ce matin une nouvelle série de prédications suivies sur l'Épître aux Hébreux, en alternance avec des thèmes libres aussi, hein, il n'y aura pas tous les dimanches l'Épître aux Hébreux. Et on fera une première série de 8, me semble-t-il. On ira jusqu'à la fin du chapitre 4 et on reprendra la fin de l'étude un peu plus tard. Notre prédication du jour se décomposera en deux parties. Une première partie où je vous présenterai rapidement l'Épître aux Hébreux et une deuxième partie où on commentera les trois premiers versets de l'Épître. Première partie, donc, l'introduction à l'Épître. Pour nous aider à imaginer le contexte de cette Épître aux Hébreux, Brad Dixon introduit son commentaire à l'aide d'une petite histoire fictive qu'il a intitulée « Plongeons dans la réalité des premiers lecteurs » et qui commence ainsi. Raphaël partit en trombe de chez ses beaux-parents, les joues rouges de colère. Judith, qu'il tirait par la main, était en sanglots, serrant leur premier-né dans les bras. Ils marchaient vite, traversant le quartier juif de leur ville, évitant les regards. Fin de l'extrait. Raphaël et Judith forment un jeune couple qui aurait vécu dans les années 60 après Jésus-Christ. Ils sont tous deux issus de familles juives et se sont convertis au christianisme. Et chaque réunion de famille se termine de la même façon. Même si leurs parents sont contents de les recevoir, ils ne peuvent s'empêcher de leur faire de nombreux reproches. Et ces reproches sont de plusieurs ordres. D'abord d'ordre théologique. Vous croyez vraiment qu'un charpentier et une bande de pêcheurs connaissent mieux la volonté de Dieu que les rabbis de Jérusalem ? Même si Jésus a sûrement dit des choses bien, comment peut-il prétendre être l'égal de Dieu ? Lui qui a fini couvert de honte sur une croix, c'est un blasphème. Est-ce qu'il y a seulement un rabbin dans votre assemblée ? Et comment pouvez-vous être pur sans l'intermédiaire d'un prêtre ? Et puis vous rejetez l'enseignement que Moïse a lui-même établi à perpétuité pour nous. Vous ne respectez pas les commandements de Dieu. Puis viennent les reproches plus personnels. On ne comprend pas votre attitude, vous nous faites honte. On ne peut même plus aller à la synagogue sans qu'on nous parle de vous. On nous reproche d'avoir mal éduqué nos enfants. Et puis les affaires de votre père commencent à souffrir de notre situation. Puis on a peur pour vous. Vos co-religionnaires sont victimes de persécutions. Vous avez pensé à votre sécurité et à celle de votre enfant ? Puis Brad Dixon imagine la réaction de Judith et Raphaël face à ces reproches. Oui, ils ont peur des persécutions. Certains membres de leur assemblée en ont déjà été victimes. À quand leur tour ? Ah, ils ne veulent pas renier Jésus. Mais il y a peut-être des compromis possibles. Par exemple, continuer à croire en Jésus, mais sans assister aux réunions de l'Assemblée. Ils pourraient retourner à la synagogue avec leurs parents, tout en continuant de prier Jésus. Après tout, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi ? Et puis il tarde à revenir. Les premiers apôtres sont morts, il n'est toujours pas revenu. Puis après l'euphorie de la conversion, il s'attendait à une vie épanouie. Mais voilà qu'ils connaissent de nombreuses déceptions. Après la chaleur des premières rencontres, ils aperçoivent à présent les défauts des membres de leur assemblée, même chez certains responsables. Et parmi ceux qui se sont fait baptiser en même temps qu'eux, certains sont retournés à la synagogue et ont abandonné l'assemblée. On peut assez facilement transposer ce récit à notre époque. Changer de confession, ou se convertir lorsqu'on est issu d'une famille de non-croyants ou d'une autre confession, ça peut encore être l'objet d'incompréhension ou de reproches. Beaucoup d'hommes et de femmes sont aujourd'hui encore en danger parce qu'ils confessent leur foi en Jésus-Christ. Vous avez peut-être entendu parler cette semaine de portes ouvertes, même dans les médias, on en parle. L'indice de persécution mondiale. Et qui parmi nous n'a jamais été déçu par le comportement de certains membres de l'Église ? Un de nos anciens pasteurs du Nord disait « Mon Église locale n'est pas parfaite, puisque j'en suis. » Si nos circonstances ne sont pas celles de l'Épître aux Hébreux, il y a quand même beaucoup de points communs, de convergence, des parallèles entre l'époque et les circonstances de l'Épître et les nôtres. Cette Épître, elle est pleinement d'actualité pour nous encourager, nous exhorter, nous mettre en garde. Après cette longue introduction, posons-nous quelques questions sur ce livre de la Bible que nous appelons l'Épître aux Hébreux. Que savons-nous de son auteur? À qui l'auteur s'adresse-t-il? Et quelles sont ses intentions? Que savons-nous de l'auteur? On a longtemps attribué cette épître à Paul. Mais aujourd'hui, une très grande majorité de commentateurs s'accordent pour dire que nous ne connaissons pas vraiment l'auteur de l'Épître. Par contre, on peut en esquisser une sorte de portrait robot. Il est d'origine juive. Dans le premier verset de l'Épître que nous lirons, il appelle les saints de l'Ancien Testament ses ancêtres. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises. Il connaît bien les destinataires de la lettre. Au chapitre 10, verset 34, il dit « En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison. Priez pour nous pour que je vous sois rendu plus tôt » au chapitre 13. Ses lecteurs donc le connaissent personnellement et il connaît bien leur parcours spirituel. Dans un premier temps, ils ont été zélés. Chapitre 6, verset 10 « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. » Chapitre 10, verset 32, « Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand et douloureux combat. » Mais face aux épreuves, ils se sont refroidis et ils ont régressé. Chapitre 5, verset 12, « Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. » Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Imaginez qu'un prédicateur de passage, parce qu'un ancien n'oserait peut-être pas dire ça au micro, mais vous adresse ces paroles-là, ça se coupe quand même, non? C'est un danger qui peut nous guetter aussi aujourd'hui, en rester au rudiment de la vie chrétienne, ne plus progresser, et vous le savez, on dit que quand on ne progresse plus, on régresse. L'auteur de l'Épître est un théologien. Il suffit de lire l'Épître pour voir qu'il connaît parfaitement l'Ancien Testament. Mais c'est aussi un pasteur, au sens qu'à certains moments, il réprimande, il exhorte, il avertit, il met en garde. Chapitre 3, verset 12, « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » À d'autres moments, par contre, il veut consoler, réconforter, encourager. Chapitre 6, verset 9, « Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part. » Et deux versets résument à eux seuls ces deux aspects de son message. Chapitre 10, versets 36 et 37, « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous avait promis. » Nous aussi, nous avons besoin de persévérance et de nous rappeler les promesses de Dieu pour notre éternité, afin de nous encourager et renouveler notre zèle sans céder au découragement face aux difficultés que nous rencontrons. Au verset 37, « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Un peu de temps, vraiment? Le temps peut nous paraître long, mais l'auteur veut nous rappeler que Dieu tient toujours ses promesses et qu'il interviendra en son temps. Pierre déclare dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans, dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pour voir si vous ne dormez pas, à qui s'adresse l'auteur ? Aux Hébreux ? Ben non. Il s'adresse à des chrétiens. Alors oui, des chrétiens d'origine juive. Oui, c'est des Hébreux. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne veut pas convertir les gens à qui il parle. Ils sont convertis. Et il s'adresse à des chrétiens. La personne du Christ suscite aujourd'hui encore de nombreuses interrogations et beaucoup de scepticisme. Et dans une conversation récente, quelqu'un me disait « Tant qu'on parle de religion, ça va, mais quand on parle du Christ, il commence à y avoir des réactions un peu plus vives. » On l'a déjà lu, les destinataires de l'Épître ont connu la persécution à cause de leur foi, et ils risquaient de se laisser entraîner par toutes sortes de doctrines séductrices. Ils couraient le danger d'oublier la véritable parole que leurs anciens conducteurs, morts depuis, leur avait enseigné. Quel but poursuit l'auteur ? L'objet principal de cette lettre est de mettre en garde ses lecteurs contre un retour en arrière vers le judaïsme et les sacrifices. C'est pourquoi l'auteur insiste tant pour démontrer la supériorité de Christ et de la nouvelle alliance par rapport à la loi de Moïse et au système de sacrifice lévitique. Il démontre, en s'appuyant sur l'Ancien Testament, que Christ est supérieur aux prophètes, aux anges, à Moïse, à Josué, qu'il est plus grand que les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, même plus grand que Melchisédek, qui est pourtant considéré comme le plus grand d'entre les prêtres. Aujourd'hui, cet épître peut nous encourager à demeurer fermes dans nos engagements et à ne pas céder à la tentation de revenir en arrière. Au chapitre 10, verset 39, l'auteur écrit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » J'ai déjà dit que l'auteur veut avertir, mettre en garde, réprimander parfois, mais aussi encourager. Et dans une interview qui était faite de Brad Dixon sur une radio, on lui a demandé de résumer l'épître en un seul mot. Vous imaginez, résumer un commentaire à une épître, ou même l'épître, à un seul mot. Et il a répondu, j'hésite entre deux mots. Déjà deux. Hein. Meilleur et persévérance. Et la personne qui l'interviewait lui disait, ah oui, ça me rappelle la théorie, j'ai oublié le nom du théologien dont elle parlait, qui dit souvent, puisque Christ est meilleur que, point de suspension, persévérons dans. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises dans l'Épître, on lit des choses de ce type. Aujourd'hui encore, Christ est ce qu'il y a de meilleur pour nous, et nous sommes invités à persévérer dans notre engagement à le suivre, pris le jour de notre baptême. Hébreux 4, 14 en est un exemple. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. J'ai oublié de faire défiler le diaporama. Dans un autre commentaire, Samuel Benetro résume l'épître ainsi. Il y a pour l'homme pécheur une seule médiation valide et en même temps parfaitement suffisante, celle du Fils. Il faut donc s'y attacher sans réserve et récuser toute médiation concurrente, même la plus prestigieuse de toutes, celle qui structure le culte de l'ancienne alliance. Pour rappel, un médiateur, c'est une personne qui aide deux parties en conflit à trouver un accord. Dans l'Épître aux Hébreux, Christ est présenté comme le seul médiateur possible entre Dieu et nous. Et pourquoi avons-nous besoin d'un médiateur ? Parce qu'en péchant, nous nous sommes rebellés contre Dieu. Quand la lettre a-t-elle été rédigée ? Ce n'est pas forcément une question primordiale, mais on peut se poser la question. On remarquera que dans l'Épître, on ne parle pas de la destruction du Temple. Et donc on pense que si le Temple avait été détruit, ben on en parlerait. C'est quand même un événement majeur dans l'histoire, donc avant 70, après Jésus-Christ. Et au chapitre 13, l'auteur mentionne Timothée, mais il ne parle pas de Paul. C'est aussi étonnant quand même. En général, ils sont associés, donc on pense souvent que Paul est mort au moment où l'Épître est rédigée. Donc ça fait une fourchette entre 64 et 70. Voilà. À cette question-là, il y a déjà de nombreuses communautés chrétiennes qui ont vu le jour, mais la première génération des chrétiens, notamment ceux qui ont été des témoins oculaires du ministère de Jésus, cette génération-là, elle est en train de disparaître. Et si les premiers croyants s'attendaient à un retour imminent de Jésus, le temps passe et Jésus ne revient pas. C'est pour les chrétiens de l'époque probablement une source d'interrogation. Pourquoi tarde-t-il ? Reviendra-t-il vraiment ? Un des buts de l'Épître, c'est de rassurer les destinataires et de les engager à ne pas douter, mais à patienter et à persévérer. Venons-en à la deuxième partie et lisons donc les trois premiers versets de cette Épître. Colin a cité déjà le verset 1. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je vous propose de faire quelques commentaires sur ces trois versets et de conclure par deux applications plus pratiques. Dieu, à travers toutes les époques, a parlé, et ce, de différentes façons. La Bible nous dit qu'il s'est adressé directement à Adam dans le jardin d'Éden, à Noé, à Moïse, à David, pour ne citer que les plus connus des personnages de l'Ancien Testament. Il a aussi parlé en utilisant des messagers qu'on appelle les prophètes, Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous les petits prophètes de la Bible. C'est cette période, l'avant-Christ, que l'auteur désigne par « autrefois ». En parlant ainsi régulièrement à des hommes ou à son peuple par des prophètes, Dieu a ainsi montré qu'il ne s'est jamais désintéressé du peuple qu'il s'est choisi pour se révéler aux hommes. Et pour que cette parole soit accessible à tous et en tout temps, elle a été mise par écrit. En parlant des prophètes, on peut se rappeler que le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Vous savez à quelle époque il a vécu ? Oui, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc il y a eu à peu près 400 ans sans prophète. Donc vous imaginez que quand Jean-Baptiste arrive et Jésus aussi, ben c'est quand même un événement, ça fait 400 ans qu'il n'avait pas eu lieu. Le verset 2 nous parle des derniers jours. Alors souvent dans la Bible, quand on parle des derniers temps, c'est les temps de la fin, les mauvais temps, les temps d'épreuve. Ici, on pense plutôt que ce que l'auteur appelle les derniers jours, c'est la totalité de la période entre les deux venues de Christ. Et si on appelle, s'il l'appelle les derniers jours, c'est parce qu'ils nous ont apporté la parole définitive de Christ. Nous ne devons plus rien attendre de nouveau ou de plus en termes de révélation de Dieu. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Il parle de son sacrifice, mais probablement aussi de la révélation divine. Donc dans ces premiers versets, l'auteur fait une distinction entre différentes périodes. La période des ancêtres, qu'on pourrait appeler hier, la période que vivent les destinataires de la lettre, qu'on pourrait appeler aujourd'hui et dans laquelle nous sommes encore. Cet aujourd'hui, c'est une période d'attente patiente, un temps de grâce, mais aussi d'épreuve. Et plus tard dans l'Épître, l'auteur évoquera une troisième période qu'on pourrait appeler demain et qui désigne les temps qui suivront la seconde venue de Jésus. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Nous l'avons déjà lu. La suite du texte nous dresse un portrait de Jésus qui a pour but de démontrer la supériorité du Christ sur les prophètes et d'instaurer chez ses lecteurs la conviction que la parole de Christ est l'autorité absolue. Il commence par dire que Jésus est l'héritier de toutes choses. Quand on y réfléchit, si Jésus est le Fils, ben il est l'héritier de son Père. Ça paraît assez logique. L'héritier, c'est celui qui reçoit bien sûr des biens d'une autre personne. Nous, quand on pense héritage, ben c'est à ça qu'on pense. Mais c'est aussi celui qui normalement continue l'action de celui dont il hérite. C'est son successeur. Jésus est celui qui a tout reçu de son Père, toute autorité sur la création. Dans l'Épître aux Corinthiens, on peut lire « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds » ou dans Matthieu 28, là c'est Jésus qui parle « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et par qui ça lui a été donné ? Par son Père, bien sûr. C'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Prologue de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous l'avez probablement déjà fait, mais moi c'est quelque chose que je dois relire souvent, ça, parce que ces termes qui se répètent, avec, pendant, enfin, au commencement, a été fait et tout. Quand vous essayez de faire une chronologie dans votre tête, vous dites c'était avant, après, enfin c'est un peu compliqué quand même d'essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Jésus était à la fois avec Dieu dès le commencement, il a tout créé, et pourtant il est le Fils du Père, et pour nous quand on est un fils, on vient après, le Père. Bon, donc là il y a des choses un peu compliquées à mettre dans notre tête. Sur le fait qu'il ait créé le monde, Paul le dit dans l'Épître aux Colossiens, « C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Christ est aussi le reflet de la gloire de Dieu. Toujours dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, on peut lire « Personne n'a jamais vu Dieu. » Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus est celui qui nous révèle le Père. Ses miracles sont la preuve qu'il commande à toute chose. Ses enseignements nous montrent qu'il est la parole incarnée. Sa compassion pour les malades, les rejetés et les pécheurs nous révèle que Dieu est amour et miséricorde. Jésus est l'expression de sa personne, c'est-à-dire la personne de Dieu. Il est pleinement Dieu, il est de la même essence que Dieu, de la même nature. Et il soutient tout par sa parole puissante. Non seulement Jésus a créé le monde, mais il continue à contribuer à sa marche. Il continue à veiller sur sa création. Je ne sais pas vous, mais moi, avant ma conversion, j'étais convaincu qu'il y avait un créateur, mais beaucoup moins qu'ils s'intéressaient encore à nous. En tout cas à moi. Bien, Jésus est celui qui soutient tout, la création, mais qui soutient aussi ses enfants, par sa parole puissante. Sixièmement, il est celui qui a accompli la purification de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, la purification des péchés, c'était le rôle des prêtres qui offraient des sacrifices pour laver les péchés. Ils offraient des animaux et devaient répéter ces sacrifices régulièrement. Jésus, lui, s'est offert lui-même à la croix et une fois pour toutes. Il apparaît ici comme le prêtre par excellence, celui qui, par un sacrifice unique et perpétuel, a obtenu la purification des péchés de quiconque croit en lui. Enfin, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints. Dans les cours royales, seules les plus hautes dignités ont le droit de s'asseoir en présence du roi. Les autres restent debout. Jésus, lui, est assis à la droite de Dieu. Ça montre son rang. Cette idée était déjà présente dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 110, on peut lire « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » On peut remarquer que le grand prêtre ne pouvait accéder à la présence de Dieu dans le lieu très saint du temple qu'une fois par an, et il n'y restait que peu de temps. Jésus, lui, est assis à la droite de Dieu. Quand vous vous asseyez quelque part, c'est parce que vous allez y rester un certain temps. Il est constamment à la droite de Dieu, c'est-à-dire la place la plus prestigieuse. Et cela renforce l'idée que Jésus détient toute autorité dans le ciel, sur la terre, et qu'il est le souverain qui gouverne avec Dieu. La droite de Dieu est souvent associée à la gloire, la majesté, la puissance divine. Elle symbolise la position privilégiée de Christ dans le plan de salut. En résumé, Christ est à la fois prophète, c'est-à-dire qu'il parle au nom de Dieu, roi, il règne, il dirige, grand prêtre, c'est lui qui purifie. Et dans la suite de l'Épître, l'auteur démontrera que dans chacune de ses fonctions, Jésus est supérieur aux autres. J'en viens à la conclusion et aux deux mises en pratique que je vous propose. Puisque Dieu parle, eh bien écoutons-le. Hébreux 4, verset 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Vivante. La Bible, ce n'est pas qu'un livre ancien à caractère historique. Son enseignement nous parle aujourd'hui encore. Est-ce que vous avez une idée du nombre de Bibles qu'on vend encore chaque année? Moi, je le sais depuis 3 jours. On pense que c'est autour de 100 millions de Bibles chaque jour. Chaque année. Pardon. Oui, chaque jour, ça serait un sacré record. C'est au passage le livre qui a été le plus vendu dans le monde depuis que le monde existe. Mais il se vend encore. La Bible est efficace, elle a le pouvoir de transformer des vies. Elle est agissante, capable de convaincre, de transformer des cœurs. On a 7 préparations au baptême en ce moment, c'est donc que cette parole parle encore aujourd'hui. La parole est tranchante, Elle permet de discerner, de juger, de faire des différences, de révéler la véritable nature des hommes. Elle est pénétrante au plus profond de nous. Je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous lisez la parole de Dieu, mais moi, les premières fois où j'ai lu les évangiles, je me suis dit, cette parole, elle me connaît sacrément bien. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, hein, on le dit souvent, c'est tiré du psaume 119. Par sa parole, Dieu nous guide et nous aide à discerner ce qu'il veut pour chacun de nous. Deuxième enseignement, après le portrait qui a été dressé de Christ, je me dis qu'on a tout intérêt à faire nos efforts pour bien connaître Christ. Je cite à nouveau Brad Dixon. Pour affermir notre foi, l'auteur ne s'appuie pas dans un premier temps sur des menaces ou des exhortations, même s'il en fera plus tard. Son premier réflexe est de nous donner un cours de christologie, c'est-à-dire l'étude de la personne et de la doctrine du Christ. Le meilleur moyen de ne pas renier ou négliger notre foi est d'être fasciné par la personne et l'œuvre de Christ. Fin de la citation. En lisant cela, je me dis qu'effectivement, si on savait encore mieux qui est Christ, je crois qu'on ne pourrait que l'aimer davantage. On n'arrive pas à imaginer toute la mesure de sa personne, et donc c'est une invitation, une exhortation, un encouragement à toujours essayer de mieux le connaître à travers les écrits. Paul déclare dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. » Pour conclure, remercions Dieu de nous avoir rappelé dans ce texte la majesté de Christ, ainsi que son sacrifice sur la croix pour nous purifier de nos péchés, et demandons-lui de nous aider à mieux le connaître, à être persévérant dans la lecture de sa parole et à prendre du temps pour l'écouter. Amen.